Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas fou ».
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Très bien, Nemo. Tout nouvel explorateur doit répondre à une question de science.
Très bien.
Vous voyez ce vaisseau spatial là-bas? Vous voyez comment il n'est pas explosé? Et vous savez ça, ce que ça veut dire, monsieur le génie?
Roger, pareil pour le décollage?
Pareil.
Allumage des moteurs dans 5, 4, 3, 2... Mais on a mis quoi comme moteur dans la fusée déjà? Antimatière, nucléaire, plasma ou autre chose? Trop tard pour les questions. La fusée est partie et en vrai, de choix, il n'y en a pas vraiment. Qu'ils soient fabriqués en Russie, par les États-Unis ou européens, nos systèmes de propulsion sont tous chimiques et très, très, trop lents. L'humanité roule pour ainsi dire en tracteur sur l'autoroute des étoiles. Imaginez un peu. Au train actuel, un vaisseau avec une vitesse de croisière de 5000 km/h mettra 15 mois pour atteindre Mars, quand une propulsion nucléaire réduira le temps de trajet par 3. Et si vous avez la chance de voler à bord de la Rolls des navettes, équipée du dernier cri des moteurs à distorsion de matière, rallier la planète rouge ne vous prendra que 5 minutes, le temps d'une post-clope quoi. Là, on arrive au moment où vous me dites « Romain, faut arrêter de regarder Battlestar Galactica, Star Wars et The Expanse, ce n'est pas la réalité. » Et vous aurez malheureusement raison, mais que pour l'instant. Venus tout droit de la galaxie Science et Avenir, les extra-experts Sylvie Roat et Fabrice Nico, spécialistes pour l'une des océans et de l'espace, pour l'autre des sciences fondamentales, ont testé, mais pas éprouvé, toutes les technos qui pourraient être à notre portée dans 10, 15 ou 200 ans. Et vous allez voir que l'avenir et l'univers nous réservent bien des surprises. Bonjour Sylvie.
Bonjour Romain.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Romain.
Bienvenue à bord. Ma première question, elle est assez simple, c'est comment vous est venue l'idée de ce dossier qui est quand même un peu farfelu en principe?
Mais pas tant que ça en fait, c'est qu'il y a eu pas mal d'actu. Il y a eu des recherches, des publications au cours des derniers mois, et notamment des annonces de la NASA et des Russes de fabriquer un vaisseau pour aller vers les planètes extérieures, les planètes géantes. Donc il y a de l'actualité.
Et sur quelle base vous avez sélectionné des technos qui, pour certaines, font partie plutôt de la catégorie concept de SF à la Dan Simmons et compagnie, et à des choses qui sont un poil plus sérieuses? Est-ce que vous êtes répartis les tâches? Est-ce qu'il y en a un qui va s'intéresser à Hyperion, l'autre va binge-watcher Battlestar Galactica? Comment vous vous êtes réparti le bousin?
C'est assez simple. C'est que tout ce qui était très SF, j'avais juste pas envie de le faire, donc j'ai demandé à Fabrice, bah vas-y.
Qui sourit, hein, qui... donc il a l'air plutôt heureux.
Oui, je crois qu'on s'est bien entendu sur cette affaire, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Donc, c'est toi qui t'es retapé tout Netflix et compagnie, quoi?
Non, même pas, en fait.
Moi, j'ai revu Interstellar.
Ah, quand même, oui.
J'ai revu Interstellar, j'ai regardé toutes les bandes annonces de Dune. Interstellar, c'est la troisième fois que je le vois, je l'aime bien.
Je suis en phase.
Et Premier Contact aussi, mais dans un autre genre. Voilà.
Mais on parle pas trop de voyage.
Non, non, ils sont arrivés.
Exactement.
Ils sont là.
Et Fabrice, toi, tu t'es rematé d'autres... T'as peut-être lu des grands classiques
Non, je ne l'ai pas joué Imprégnation. Mais ce qui était rigolo, c'est que c'est Sylvie qui avait eu l'idée du dossier, parce qu'elle avait remarqué que dans ces domaines qu'elle suit de très près, il y avait de l'actu. Et donc, quand on m'a dit « Ah, on va faire explorer l'espace, et toi, tu vas nous faire les voyages les plus lointains », j'ai regardé et il se trouvait qu'il y avait aussi une publication sur un sujet dont on reparlera tout à l'heure, est la distorsion de l'espace-temps.
Le warp drive.
Le warp drive, oui.
Il y a pas mal d'actu, en effet, sur ce sujet. Alors, pendant que les millionnaires font mumuse à 500 km au-dessus de nos têtes, enfin, je dis millionnaire, je devrais dire milliardaire, pardon, est-ce qu'on a aujourd'hui, on a parlé du warp drive, mais des gens qui réfléchissent sérieusement à l'idée de pousser le voyage un peu au-delà du système solaire, ou en tout cas de dépasser le cadre de la Terre, de la Lune et de Mars?
Je crois. Ce que je disais, c'est qu'il y a des publics, donc il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui font des théories. Et puis surtout, il y a une nécessité. Dans le dossier, je cite le Voyageur 1, qui est l'objet le plus lointain, qui est sorti du système solaire, donc qui est le plus lointain que l'homme ait jamais envoyé. Mais il va mettre maintenant 90 000 ans avant d'atteindre Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous. Donc si on veut voyager dans l'espace, il va falloir trouver quelque chose pour aller plus vite.
Oui, parce que on peut être patient, on peut penser à la cryogénisation, mais voilà.
c'est beaucoup.
Avant d'aborder le comment, ce que j'ai apprécié aussi dans votre dossier, c'est que vous posiez très vite la question du pourquoi de l'exploration spatiale. C'est qu'est-ce qu'on irait faire quand même dans ce milieu hautement peu accueillant? Quelle réponse on vous a donnée?
Je suis allé voir Jacques Arnoux, qui est expert éthique au Centre national d'études spatiales, qui réfléchit à ces aspects-là. Et c'était très intéressant de l'entendre parce qu'il explique que l'être humain, comme toute espèce vivante, ne peut pas s'empêcher d'étendre son territoire de vie. Il donne l'exemple, vous mettez une bactérie dans une boîte de pétri, elle va coloniser toute la boîte de pétri. Mais nous, en plus, les humains, on a cette curiosité qui nous pousse à aller voir vraiment toujours un peu ce qu'il y a derrière la colline, etc., etc. Et de colline en colline, on a fini par se projeter même dans l'espace. Et ce qu'il explique bien, et ça nous a motivés pour le dossier, c'est que même si aujourd'hui, c'est pas très réaliste de penser à aller au-delà du système solaire dans un temps raisonnable, il n'empêche que simplement se poser la question d'y aller peut résoudre des problèmes qui aujourd'hui servent à tout le monde, comme par exemple comment on va composer un équipage, comment à ce moment-là, pour des gens qui vont vivre ensemble pendant peut-être des siècles, sous quel régime on le fait? Est-ce que c'est une démocratie?
Est-ce que c'est une grande colocation?
Voilà, oui. Ça, j'ai pas eu la place de le mettre dans le papier, mais ça pose des tas de questions, des questions scientifiques, mais aussi des questions très humaines.
Il y a quelque chose qui est hautement humain, c'est peut-être la probabilité que si on part, c'est parce qu'on y est un peu poussé aussi. Parce que je reprends l'exemple de feu Stephen Hawking, qui imaginait que l'humanité serait de toute façon condamnée à quitter le caillou qui lui a servi de berceau, puisque d'ici 2600, la Terre devrait ressembler à un four assez peu, lui aussi, accueillant.
Et oui, parce qu'en fait, on en parle, on le voit avec tous les phénomènes climatiques qui sont liés au réchauffement de l'atmosphère par l'activité humaine. Donc si on continue, et visiblement on est parti pour continuer à polluer et à réchauffer, etc., à un moment ça peut devenir invivable. Je parlais d'interstellar, il y a un moment il faut quitter la planète aussi parce qu'elle ne nous nourrit plus, par exemple, enfin pour ce genre de choses. Donc Stephen Hawking, ce qu'il pensait, c'est qu'à un moment, de toute façon, on ne pourra plus vivre sur notre planète. Donc il faudra peut-être partir, aller coloniser d'autres lieux.
Le compte à rebours, quoi.
De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative.
Traduction d'un...
Regarde, regarde, je vais te faire un dessin.
À quel point, justement, la technologie actuelle laisse à désirer pour atteindre ces objectifs de toucher, on va dire, aux limites du système solaire, sans alternative concrète aujourd'hui, jusqu'où on peut pousser la technologie actuelle, qui est celle de la propulsion chimique?
Le projet d'Elon Musk, c'est de coloniser Mars, et son vaisseau, quand il sera fini, sera de transporter 100 personnes par 100 personnes pour viser Mars. Donc lui, il ne vise pas très loin, parce que justement, c'est ce qu'on disait préalablement, les technologies actuelles ne nous permettent pas d'aller très loin. On est beaucoup trop lent. On a composé notre dossier un peu à l'envers, parce que justement, on est passé du moins concret, mais du plus rapide au plus lent.
J'ai suivi votre exemple, hein, bon élève, puisque le premier exemple dont je voudrais parler, moi, c'est un peu le gros morceau en termes de techno, c'est la question de dépasser la vitesse de la lumière en agissant sur l'espace-temps. Alors là, ça devient un peu compliqué comme ça, mais Fabrice va beaucoup mieux l'expliquer que moi. Donc c'est une technologie qu'on retrouve sous le nom, on a spoilé un petit peu tout à l'heure, c'est le nom de Warp Drive. Sur le papier, comment ça fonctionne, la propulsion transluminique, donc qui dépasse la vitesse de la lumière?
Oui, mais c'est très rigolo parce qu'en fait, effectivement, la physique actuelle ne tergiverse pas, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, l'espace-temps, lui, peut se dilater à une vitesse qu'on ne borne pas, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, on sait que ça s'est produit parce qu'au tout début de l'univers, la période d'inflation, l'univers a multiplié sa taille par un facteur considérable en très très peu de temps. La vitesse de la lumière, écoutez, c'est n'importe quoi. D'où l'idée d'utiliser cette capacité qu'a l'espace-temps à se dilater pour aller plus vite que la lumière en apparence. Parce qu'en fait, vous mettez un vaisseau dans une sorte de bulle. Donc le vaisseau, lui, dans cette bulle, il ne bouge pas, il ne va pas plus vite que la lumière. Mais la bulle, vous arrivez à l'entraîner en comprimant l'espace-temps devant la bulle et en le dilatant derrière. Donc il est un peu attiré vers l'avant et poussé de l'arrière. Et c'est un physicien, Miguel Alcubierre, qui l'a proposé dès 1994. Sauf qu'à l'époque, on avait dit oui, c'est théoriquement rigolo, mais pour que ça marche, il faut de la matière à énergie négative. Et jusqu'à présent, l'énergie est toujours positive. Donc, on dit qu'il y a sans doute de l'énergie négative, puisque c'est la fameuse énergie noire qui, précisément, est responsable de l'expansion de l'univers. Mais enfin, on ne l'a pas vu. Bon, enfin, c'était assez intéressant pour que les physiciens regardent ça de plus près. Et il se trouve donc qu'en début d'année, un chercheur allemand, Erik Lenz, a repris les équations de Miguel Alcubierre et il a démontré, il a trouvé des solutions pour obtenir le même résultat, mais uniquement avec de l'énergie positive. Bon, le seul problème, c'est qu'il faudra à peu près transformer toute la masse de Jupiter en énergie pour propulser un vaisseau. Donc maintenant, il faut trouver des moyens de faire des économies. Oui. Mais en tout cas, c'est un pas.
Vers le domaine du possible.
Voilà.
Tranquillement. On reste dans la théorie et on va limite un peu plus dans la fiction, puisqu'on va parler de Star Trek et Avatar, dont les vaisseaux emblématiques, donc l'Enterprise et le Venture Star, tournent tous deux sur une autre techno, c'est celle de l'antimatière, une techno qui a l'air à la fois rapide et quand même plus sérieuse techniquement.
Oui, et justement, tout à l'heure, tu disais il y a vraiment des gens qui réfléchissent à ça. Et moi, j'ai donc aussi rencontré au CNES Pascal Bultel, qui est responsable des grands enjeux du CNES.
Le CNES, Centre National,
d'études spatiales, qui, lui, réfléchit précisément à ces modes de propulsion disruptifs, comme on dit en mauvais français. L'antimatière est très intéressante parce que, en termes de rendement énergétique, il n'y a pas mieux, puisque quand une particule de matière rencontre une particule d'antimatière, 100% de leur masse est transformée en énergie. Donc, c'est très, très rentable. Quelques nanogrammes d'antimatière, ça produit autant d'énergie que des tonnes d'ergol. Voilà, le seul problème, c'est qu'il faut produire de l'antimatière. Mais là, ce n'est pas un problème théorique comme avec le Warp Drive, où là, ça reste vraiment sur le papier. De l'antimatière, on en fabrique. On en fabrique au CERN, on en fabrique au Fermilab, sauf qu'on les fabrique, on va dire, atome par atome. Donc, on n'est pas vraiment
arrivé. Il ne faut pas être pressé, quoi.
Il ne faut pas être pressé. Mais, dans l'absolu, ça n'est pas du tout impossible, cette fois-ci.
L'ergol, tu disais, en gros, c'est le combustible actuel.
Oui, enfin ça c'est le domaine de Sylvie, mais enfin c'est ce qu'on utilise pour pousser la fusée.
Donc Fabrice Atelier, on comprend qu'un projet de moteur pourrait être en cours, alors là je mets 14 guillemets de tous les côtés, au sein de la NASA, mais rien n'est moins sûr.
Là encore assez rigolo parce que j'avais vu ce projet qui date de 2006, il y a même sur le site de la NASA un écorché de ce réacteur antimatière, et puis alors plus rien depuis. Et donc là, j'ai posé la question à Pascal Bultel, qui m'a répondu un peu en rigolant, mais enfin, il m'a dit bah, « c'est normal qu'on n'en parle plus, parce que soit ça marche et c'est secret défense, soit ça ne marche pas et à ce moment-là, il n'y a rien à dire. »
Il est sous le tapis, quoi.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sylvie, sur le projet Starship, justement, de SpaceX et par extension de son créateur, Elon Musk ?
En fait, dans les prochaines semaines, bon, ça fait quelques semaines qu'on l'attend, qu'on regarde, c'est le 20e prototype. Il est monté, il a son très gros premier étage et puis le beau vaisseau au-dessus. La première tentative sera de rallier la base de Boca Chica au Texas jusqu'à Hawaï, mais via l'espace. Donc il va faire un lancement en quelques minutes. Et ensuite, son projet, c'est de rallier la Lune, mais surtout Mars. Donc c'est un très gros vaisseau, très puissant, qui est prévu pour une vraie colonisation martienne avec une capacité d'emport de 100 personnes. Et surtout de construction de base ensuite sur Mars. Donc ce sera le plus gros vaisseau jamais construit par l'homme. Très gros projet.
Pas mal. Chapeau.
Elles n'ont pas de moteur. Ils comptent sans doute mettre des pédales pour le doubler.
Ah bon ? Non mais là, les gens sont morts de rire autour de moi, hein, tous !
Il y a aussi quand même d'autres grands noms derrière certaines de ces technos, et pas les moindres. Hein. Stephen Hawking a lancé en 2016, avec plusieurs partenaires, dont un certain Mark Zuckerberg, un projet nommé Breakthrough Starshot. En quoi consiste ce projet, Sylvie ?
Alors, leur objectif, c'était de rapporter à l'échelle humaine, en fait, hein, voilà, dans un temps relativement court, des images de Proxima du Centaure. Mais pour ça, il faudrait approcher 20% de la vitesse de la lumière. Donc, ils se sont dit, en fait, on va créer des toutes petites voiles de 1 gramme, donc avec des caméras miniatures de 1 gramme, donc plein de voiles solaires, un essaim de voiles solaires, qui seraient propulsées à l'aide d'un laser basé sur la Terre, un laser de 100 gigawatts. Pour faire ce laser, il faudrait en fait plusieurs faisceaux qui se combineraient depuis la Terre en un seul, donc à la sortie de l'atmosphère, ou alors un gros laser super puissant en orbite qui exercerait une poussée sur ces voiles jusqu'à les accélérer à 20% de la vitesse de la lumière. En 20 ans, vous êtes à Proxima du Centaure. Alors, c'est un projet sur le papier, mais ils ont quand même mis 100 millions de dollars pour commencer les recherches. C'est-à-dire, là, il y a un budget, en tout cas,
oui,
pour commencer.
Et il y a quand même une techno qu'on n'a pas évoquée juste là, c'est celle du nucléaire. On en est où sur ce sujet ? Est-ce que c'est une techno compétitive ? Et est-ce que certains pays misent dessus pour nous propulser ?
Il y a plusieurs nucléaires. Le plus prospectif et la fusion nucléaire, sachant que sur Terre, on n'a pas encore réussi à faire la fusion. Mais la fusion, c'est ce qui se passe dans une étoile, c'est extrêmement puissant. Donc je vais laisser Fabrice en parler.
Oui, la fusion, on l'a fait sur Terre, mais c'est la bombe à hydrogène. Enfin, oui. On ne la maîtrise pas, en fait.
Oui.
Donc c'est un peu le problème. Mais on cherche à la maîtriser actuellement, puisque c'est ce qu'on prévoit comme le futur de l'énergie nucléaire sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de fission, on ne casse plus des atomes. On les rassemble, des petits, et ça libère de l'énergie. Et il y a un réacteur expérimental qui est en construction à Cadarache, dans le sud, là, ITER, qui va essayer de réussir la fusion confinée sans que tout explose. Ce qui serait la base pour qu'ensuite, on puisse réaliser cette fusion en apesanteur dans un vaisseau qui pourrait se propulser comme ça à 10% de la vitesse de la lumière si ça marchait.
Ok, donc ça, c'est le premier nucléaire.
Voilà, et le deuxième, c'est la fission qu'on maîtrise, là, pour le coup. Et là, il y a des projets très concrets, puisque les Russes ont annoncé, là, il y a quelques mois, qu'ils lançaient la construction, donc c'est vraiment avancé, d'un vaisseau qui s'appelle Zeus, destiné à la Lune. Alors, ils ne sont pas très martiens, ils préfèrent Vénus depuis tout le temps, en fait, depuis le début de l'histoire spatiale. Donc, ils iraient ensuite vers Vénus et après gagneraient Jupiter et les autres planètes. Donc, c'est un projet à très long terme. L'intérêt du nucléaire, de la fission, c'est que ça n'a pas besoin de soleil. Donc, vous pouvez vous éloigner autant que vous voulez du soleil, vous avez la même énergie. Ils vont utiliser la chaleur du réacteur pour chauffer un liquide propulsif et l'expulser sous forme de gaz. Et leur réacteur peut durer 10 ans, donc avec la même puissance énorme. Donc c'est un très gros projet. Et la NASA a également annoncé qu'elle allait exploiter tout ce qui est réacteur nucléaire pour les prochains vols habités.
Okay.
Là, on est dans du concret. Ça y est, on commence vraiment à se dire, on maîtrise cette technologie et elle peut vraiment nous donner beaucoup plus d'énergie que ce qu'on utilise la propulsion chimique actuelle.
Il y a un premier horizon qui est donné à Zeus, c'est 2030.
Lancement 2030. Mais c'est en cours de construction.
Ouais, donc
ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Ils ne le sortent pas du chapeau tout de suite. Là. Ils ont déjà travaillé sur les matériaux. Enfin, voilà.
La conquête spatiale pourrait démarrer donc, dans moins de 10 ans. Quoi.
Exactement.
C'est quand même assez impressionnant. On a oublié de parler d'une techno qui est un peu le meilleur rapport qualité-prix-faisabilité du moment. C'est si on prend justement en compte l'enjeu de survie de l'espèce humaine dans les siècles à venir et qu'on se dit qu'il faut urger un petit peu, est-ce que la techno du moteur à plasma n'est pas le passeport le plus sûr et le plus faisable pour quitter le système solaire à court, en tout cas à moyen terme.
C'est très prometteur. C'est une étude réalisée par une jeune chercheuse qui veut mettre en chantier son premier prototype. Donc son moteur utilise des bulles de plasma qui relâchent énormément plus d'énergie que le seul plasma, qui lui est un gaz ionisé, c'est-à-dire un gaz chargé électriquement. Son moteur permettrait d'atteindre la vitesse de 1 800 000 km/h, ce qui est phénoménal par rapport à la propulsion chimique qui est très lente.
Qui plafonne, tout à l'heure on donnait l'exemple juste de Apollo 11, 5 000 km/h, c'est ça, hein?
C'est ça.
Et à moins de se téléporter, parce que le plasma a beau être rapide, le laser aussi, il y a quand même, quelle que soit la techno utilisée, sauf peut-être, on a dit, la distorsion de l'espace-temps qui permettrait de se déplacer en 5 minutes jusqu'à Mars. Mais pour tout le reste, les passagers risquent d'être exposés à la fois à pas mal de jets et en plus quand même à des radiations solaires. C'est un point qu'on n'a pas évoqué jusque-là. Quelles solutions sont envisagées pour répondre à ces à-côtés du voyage spatial?
Tout simplement l'hibernation. Voilà, on refroidit
au dodo.
Dodo sur 90 000 ans, voilà, si vous êtes à la vitesse de voyageur 1, ce qui fait beaucoup. Parce que ça permettrait de se protéger des radiations, ça permettrait de réparer l'ADN, ça permettrait d'économiser tout ce qui est nourriture aussi, tout ce qui est perte musculaire également. Enfin, c'est une solution, mais qui n'en est qu'au tout début des voies de recherche. On étudie les marmottes pour savoir comment elles se mettent dans cet état-là et comment elles survivent et quelles sont leurs... Alors je dis marmottes, hein, y a beaucoup d'animaux qui hibernent, mais actuellement on en est vraiment au stade animal.
Oui, donc il vaut mieux s'armer de patience sur le sujet quand même.
Tout à fait.
Et j'aimerais terminer l'émission sur une note de poésie, si tu veux bien, Sylvie. À condition qu'on ne passe pas tout le voyage en mode hibernation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir si on jette un petit coup d'œil à travers le hublot pendant son voyage?
Dans les films de science-fiction, en général, on voit des étoiles qui filent très très vite sur les côtés. En réalité, si vous accélérez quasiment à la vitesse de la lumière, vous allez avoir une étrange vision de toutes les constellations, toutes les voies lactées vont se réunir devant vous en une espèce de boule de lumière blanche. C'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. C'est le même phénomène qui se passe quand vous êtes dans une voiture lancée à pleine vitesse. S'il pleut, la pluie vient du dessus. Elle est partout autour. Si vous démarrez doucement, progressivement et en accélérant de plus en plus sur l'autoroute, vous allez avoir l'impression que toutes les gouttes de pluie viennent de l'avant et sont de plus en plus verticales. Il se passe la même chose avec les photons. C'est pour ça qu'on a l'impression que progressivement, toute la Voie lactée passe devant vous et vous arrivez à voir des constellations qui sont dans votre dos. Donc c'est assez étonnant.
Mais en soi, c'est vrai qu'il y a une illustration dans votre dossier. Ça ressemble à une grosse tache blanche.
C'est une grosse tache blanche, effectivement.
C'est de la poésie, mais je reste pragmatique quand même sur la fin. Fabrice, tu avais quelque chose à nous dire en complément de la petite pause poétique de Sylvie ?
Bah, oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une grosse tache blanche, mais enfin, au moins il se passe quelque chose. Alors que si on va à des vitesses beaucoup moins élevées, même si c'est quand même 10-20% de la vitesse de la lumière, bah, il faut savoir que les distances entre les étoiles sont tellement grandes qu'en gros il ne se passe rien et donc c'est du noir avec des petites taches blanches pendant très 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 longtemps. Donc ouais, il vaut mieux dormir ou emmener sa collection de DVD.
Bon, je reste quand même un peu poète puisque depuis que l'homme a posé ses yeux sur le ciel pour la première fois, j'ai l'impression que l'espace n'a cessé de lui tendre les bras. Le problème ou les problèmes, on l'a vu, c'est bien de les atteindre avant de mourir de vieillesse ou de tomber à court de carburant. Je vous propose de ne pas attendre jusque-là pour reparler des progrès des chercheurs en matière de propulsion spatiale. Avant ça, il me faut d'abord remercier les copilotes qui ont fourni le carburant et toutes les indications nécessaires à ce premier vol. Sylvie, Fabrice, merci beaucoup.
Merci Romain.
Merci.
À dans deux semaines et n'oubliez pas, même dans l'espace, vous nous entendrez podcaster.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.